ordre de problème, c'est la place des langues régionales. Dans certains pays, cette place est très, très importante. Et dans d'autres pas. Et ces langues régionales revendiquent d'être reconnues aussi. Voilà, c'est les trois ordres de problème. On a pu se rendre compte que les problèmes soulevés par la diversité linguistique, du coup, se posent très différemment suivant les univers de travail. Hein, on ne va pas du tout avoir les mêmes problèmes chez les cadres qui sont confrontés à... Par exemple, en France, les cadres sont confrontés beaucoup à la prédominance de l'anglais. Voilà. Si on va sur un chantier de nettoyage, c'est pas du tout la prédominance de l'anglais qui est un problème, c'est le problème de maîtrise de la langue française. Hein, donc voilà, sur un même site d'entreprise, on peut avoir différentes strates en fait de problèmes linguistiques qui vont se poser. Ces problèmes restent encore assez peu explorés. Et quand ils sont explorés, en fait, on trouve deux angles principalement dans tous les pays. Hein. C'est l'efficacité du travail. Bon. Et puis, un deuxième angle, ça va être celui de la sécurité et éventuellement de la santé des salariés. Par contre, quand on parle de problèmes de langue, la question du respect des droits des salariés est rarement soulevée. Hein, ils ne comprennent pas la langue du pays hôte, et ben, tant pis pour eux. Ou alors ils ne comprennent pas leur contrat en anglais, et ben, c'est tant pis pour eux aussi. Et là, on remarque que les organisations syndicales sont relativement peu actives dans ce champ-là, même si elles y sont quand même présentes. Alors maintenant, la réalisation des études de cas. Comment avons-nous procédé? Donc on avait plusieurs ordres de difficultés. En fait, quelle était notre échelle d'observation? Il a fallu faire des choix. Est-ce qu'on se focalisait sur le secteur ou sur l'entreprise? Comment on choisissait ces secteurs, ces entreprises? Quels étaient les plus pertinents pour observer les problèmes de langue? Comment on pouvait accéder aux interlocuteurs pertinents, des gens qui pouvaient nous vraiment dire des choses sur les problèmes linguistiques en eux-mêmes, et comment on établissait une comparaison finalement entre les pays. On a beaucoup discuté de tout ça, on a fini par choisir un protocole de recherche assez souple, c'est-à-dire qu'on a laissé le choix de l'échelle d'observation à l'appréciation des partenaires, de manière pragmatique, suivant aussi les secteurs d'études choisis. On a essayé de rendre compte de la plus grande diversité possible de secteurs et de types de problèmes linguistiques qui pouvaient se poser, tout en essayant de tenir compte des particularités de chacun des pays. On a adopté la notion de management de la diversité pour rentrer sur le terrain, finalement, parce que c'est un problème, c'est une notion clé, finalement, c'est une notion qui est beaucoup débattu, rebattu en ce moment, donc ça parle un peu aux gens. Elle fait sens parce que effectivement, il y a bien un problème de gestion de la diversité quelque part. Donc on n'est pas rentré par contre dans l'acceptation politique de cette notion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accéder aux pratiques des acteurs. Donc comment, dans les faits, vous faites pour gérer une diversité linguistique au quotidien, quoi. Voilà. Le mode d'accès au terrain a été, les modes d'accès au terrain ont été variés, c'est-à-dire que certains ont fait des demandes officielles d'accès au terrain, donc sont passés par les directions d'entreprise, et puis ont pu accéder au terrain comme ça. D'autres ont échoué dans ce mode d'accès, ou alors n'ont même pas essayé ça, sont rentrés plutôt par les organisations syndicales, d'autres sont rentrés par leurs relations interpersonnelles, et puis à partir de là, on a fait le mécanisme du boule de neige, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de nous présenter d'autres interlocuteurs. La chose qu'on a eue en commun, par contre, c'était les guides d'entretien. Donc on a essayé d'harmoniser entre nous. Quatre types d'activités économiques ont été ciblées. Les plateformes internationales, donc on a regardé ce qui se passait notamment dans les centres d'appel et les services de support informatique. Les activités de services marchands, type hôtellerie, nettoyage, etc. les services publics, on a principalement ciblé le secteur de la santé, et les industries traditionnelles. Et on a aussi analysé l'activité de deux permanences syndicales en direction des travailleurs immigrés, donc en France et en Allemagne. Donc maintenant, les résultats d'enquête. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on nous parle beaucoup on nous dit, oui, la langue de travail, c'est... Bon, voilà, ici, par exemple, c'est le français, c'est l'anglais, etc. Mais en fait, ça, ce n'est écrit nulle part. Hein, donc, dans les documentations d'entreprise, quand les chercheurs qui ont vraiment poussé cette question et qui ont essayé d'obtenir un document d'entreprise où était écrit la langue de travail, n'ont jamais obtenu ce document d'entreprise. Voilà, donc visiblement, c'est des usages assez solidifiés, mais pas décrits. Les pratiques officielles vont varier d'un type d'activité à l'autre. On a pu remarquer que l'anglais est utilisé comme langue véhiculaire entre salariés sur les plateformes internationales. Mais par contre, on va observer sur ces plateformes que les contrats de travail sont rédigés dans la langue du pays d'accueil. Donc on va avoir comme ça l'utilisation de plusieurs langues. Et puis on demande, par exemple en Espagne, on a le cas du centre d'appel qui fait venir donc des travailleurs français, etc. Donc il leur demande expressément de parler en français toute la journée. Ces gens-là ont leur contrat de travail en espagnol. Et donc quand ils communiquent entre eux, ça peut être en anglais. Quand ils communiquent avec ceux qui travaillent avec les autres langues, en fait. La langue du travail va être celle du pays hôte dans les services marchands et dans l'industrie traditionnelle au niveau de l'exécution. Et par contre, dans ces services marchands ou dans l'industrie, la langue de travail sera l'anglais. Donc là, on a bien deux étages. Et enfin, la langue de travail est très massivement celle du pays hôte dans les services publics. Si on regarde les limites des politiques d'entreprise ou des pratiques dominantes, on se rend compte que l'utilisation d'une langue véhiculaire ne résout pas tous les problèmes de communication. Ces problèmes de communication sont en grande partie en fait, des problèmes culturels. Donc on peut toujours employer les mêmes mots. Finalement, ces mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. On aura la présentation d'études de cas en Hongrie qui le montrent très très bien. L'utilisation informelle des langues maternelles, finalement, on ne peut pas l'empêcher, donc elle existe sur tous les lieux de travail, que ce soit la langue du pays hôte au moment où il faut parler anglais ou que ce soit les langues de l'immigration au moment où il faut parler la langue du pays hôte. Hein, donc y a une pratique très vivante des langues. Et en fait, ça permet d'améliorer, de faciliter la réalisation du travail, les relations de travail et le bien-être des salariés. La plupart des entreprises ignorent ces compétences linguistiques en interne, en fait. Et finalement, dans les entreprises qui essayent vraiment d'imposer une politique linguistique très stricte au profit d'une langue dominante, on se rend compte que les tensions entre salariés sont beaucoup plus importantes et les couacs dans l'organisation vont être aussi plus importants, les mécanismes de discrimination également. Voilà. Si on s'intéresse maintenant aux expériences et aux succès, des succès, on n'en a pas observé des masses, hein, autant le dire tout de suite. Ce qu'on observe, c'est beaucoup d'initiatives très classiques de gestion de la diversité, c'est-à-dire que les entreprises vont organiser des événements festifs qui sont plus ou moins artificiels, en fait, mais pour essayer de faire communiquer les cultures entre elles. Donc, on réunit le personnel dans sa diversité. Parfois, ces entreprises proposent des cours, mais dans la langue du pays hôte, donc c'est une fonction assimilatrice principalement, et elles accompagnent l'installation des nouveaux arrivants dans le cadre des cadres, enfin pour les cadres. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est des entreprises qui vont proposer des cours de langue, mais diversifiés, c'est-à-dire pas uniquement la langue du pays hôte, ni uniquement l'anglais, mais des cours de langue qui peuvent représenter la diversité du personnel pour encourager le personnel à apprendre les langues les uns des autres, en fait. Et encore plus rares vont être les encouragements à privilégier l'intercompréhension, c'est-à-dire quelqu'un qui parle dans sa langue, l'autre qui comprend cette langue-là et qui répond dans sa propre langue, par exemple. Hein, donc ça, c'est une seule entreprise. Enfin, pour le moment, j'ai vu le cas d'une seule entreprise en Espagne. Les actions syndicales, maintenant, dans les cas étudiés, on en a observé assez peu. Hein, et quand on discutait avec les syndicats, finalement, ils ne semblaient pas contester les pratiques linguistiques de l'entreprise. Alors, pour ce qui est de la France, effectivement, je n'ai pas observé ça, mais je sais très bien qu'il y a des actions syndicales, quand même, de contestation des politiques d'entreprise, hein, par ailleurs. On le verra quand je présenterai le cas français. Nous n'avons observé aucune pratique de négociation sur les questions de langue. Et donc, quand celle-ci est prise en compte dans les conventions collectives, ça porte sur la sécurité. Et les syndicats eux-mêmes sont aux prises avec les problèmes posés par la diversité de leurs adhérents. Hein, ils vont mettre surtout en place des solutions qui vont viser à faciliter leur assimilation, là encore, par une communication descendante, mais très peu de solutions qui vont permettre aux adhérents de s'exprimer et de prendre part aux débats syndicaux, par exemple. Voilà. En conclusion, les politiques linguistiques en entreprise favorisent plutôt la discrimination et l'exploitation des locuteurs de langues minoritaires. Hein, c'est ce qui ressort assez fortement des études de cas. Les problèmes liés aux barrières linguistiques ne sont pas très volontiers évoqués. On a pu s'en rendre compte dans les entretiens, une certaine difficulté à faire parler nos interlocuteurs. Les pratiques innovantes vont rester assez rares et timides pour le moment, et elles montrent que l'intercompréhension, quand on observe un encouragement à l'intercompréhension, on peut voir que ça serait une voie quand même à explorer, celle-ci. Reste une grande question, c'est celle de la nature des formations à mettre en place pour les travailleurs et les partenaires sociaux. Quel type de formation et, donc on propose, nous, un DVD, on l'a présenté hier. Voilà, est-ce que ça sera quelque chose qui va marcher et favoriser l'intercompréhension? C'est à explorer aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va passer à la suite de la...